Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Aujourd'hui, je suis avec un dessinateur, Dominique Mermoux, qui sort, enfin, ça fait déjà trois mois qu'il a sorti un album absolument magnifique graphiquement et magnifique dans ce qu'il raconte. Le titre, c'est Entre les lignes, et c'est publié par les éditions Rue de Sèvres. Dominique, bonjour, je vous pose ma question traditionnelle qui entame toutes les bulles d'histoire. Qui êtes-vous ?
Bonjour. Question vertigineuse.
Vertigineuse, tout à fait.
Non, qui je suis ? Je suis dessinateur de bande dessinée depuis 15 ans. Je dis souvent que je suis dessinateur, hein, pas forcément auteur complet, puisque c'est vrai que je n'ai pas fait de scénario moi-même. Je travaille avec des scénaristes. Et puis depuis environ 4 ans, depuis en fait ce que je travaille avec les éditions Rue de Sèvres, j'ai adapté deux romans de Baptiste Beaulieu. Donc là, je ne travaille plus avec des scénaristes, mais je me retrouve à travailler avec juste le bouquin entre les mains. Voilà. Et puis, j'ai fait des études d'art aux arts décoratifs à Strasbourg. Et puis, je me suis lancé dans la bande dessinée en sortant de là en 2005.
Vous parlez de Baptiste Beaulieu, donc c'est votre deuxième adaptation. Donc j'imagine oui. Que vous avez un rapport de proximité, de compréhension avec cet auteur. Qui est-il ? Parce que c'est assez important. Parce que déjà, la première adaptation est assez géniale. Moi, je me la suis procurée depuis que j'ai lu Entre les lignes. Et celle-là est encore plus formidable. Qui est-il, ce Baptiste Beaulieu ?
Oui, Baptiste, je ne le connaissais pas, en fait, c'est les éditions Rue de Sèvres qui nous ont rassemblés. Mais Baptiste, il est à la base médecin généraliste. Et je crois donc que quand il a fait ses études de médecine, quand il était interne, il tenait un blog, à l'époque phare des blogs, dans lequel il racontait son quotidien d'interne. Il écrivait aussi à côté parce qu'il aime beaucoup l'écriture. Et en fait, depuis ce blog a été adapté, il en a tiré un roman voilà, qui s'appelait « Alors voilà, les mille et une vies des urgences ». Son blog s'appelait « Alors voilà », peut-être qu'il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça, je crois qu'il est encore un peu actif. Et donc le bouquin a super bien marché et les éditions Rue de Sèvres ont trouvé ça intéressant de l'adapter en bande dessinée. Ils ont cherché un illustrateur et ils m'ont proposé de faire ça. Voilà, donc la BD est sortie en 2017, il me semble, ou 2018, et ça s'appelle « Les mille et une vies des urgences ». Et Baptiste, maintenant, est toujours moitié du temps médecin, moitié du temps écrivain. Encore une autre moitié du temps, il fait autre chose. Je sais que mathématiquement, ce n'est pas possible, mais il fait beaucoup de choses. Donc.
Et comment avez-vous eu entre les mains ce récit, entre les lignes ? Parce que, est-ce que c'est un roman à l'origine ? Est-ce que c'est un livre ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a confié ?
Entre les lignes ?
Oui.
Pour Entre les lignes, c'est aussi l'adaptation de son quatrième roman et qui s'appelle « Toutes les histoires d'amour du monde ». De la même façon, en fait, les éditions Rue de Sèvres l'ont lu et ont trouvé ça super et me l'ont envoyé en se disant « Vous avez déjà collaboré ensemble, ça a bien marché, est-ce que ça vous dirait de reprendre le flambeau une seconde fois ?» Moi, j'avais lu plusieurs romans de Baptiste parce qu'il en avait écrit plusieurs et ils sont tous très intéressants et celui-là, il me bottait bien aussi. Voilà.
Bon, on va rentrer un peu dans l'histoire, mais avant de commencer, quand on a fini la dernière page de votre bande dessinée, de votre roman graphique, on est pris d'un espèce de vertige et on se demande, est-ce que cette histoire est réelle ?
Et oui, en fait, c'est autobiographique. Hein. Baptiste raconte l'histoire de son grand-père. Comment ça s'est passé, en fait, au départ, c'est son père et peut-être lui aussi qui ont trouvé une malle en rangeant les affaires du grand-père qui était décédé. Et en rangeant les affaires, ils ont trouvé dans cette malle trois carnets qui renfermaient des dizaines et des dizaines de lettres adressées à une personne qui s'appelle Anne-Lise Schmidt. Le ton des lettres est très, 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 comment dire, très chaleureux, très tendre. Et ce qui est assez surprenant, puisque c'est un grand-père vraiment fermé, vraiment froid avec tout le monde. Et surtout, ce qui est le plus étrange, c'est que cette Annelise Schmidt, personne ne la connaît. Donc ça part de là, en fait. Le papa va vouloir enquêter, en fait, sur cette personne. Bon, lui, il va avoir des problèmes de santé, donc il ne va pas pouvoir y aller. C'est son fils, Baptiste, qui va reprendre le flambeau. Donc Baptiste va enquêter, voilà, sur cette Annelise. Et donc on suit, en fait, dans cette bande dessinée, on va suivre à la fois l'enquête de Baptiste pour découvrir qui est cette personne, et à la fois on reprend les lettres du grand-père, qui sont chronologiques et qui racontent son histoire. Et on va suivre tout ça en parallèle.
Oui, parce que c'est à la fois en parallèle, mais moi j'ai aussi vu ça comme une sorte de millefeuille d'histoire, parce qu'il y a à la fois l'histoire de Baptiste avec son père, qui est comme plein de relations père-fils pas simples, il y a l'histoire de son père avec son père à lui, donc Moïse, le comment dire, l'écrivain de ses lettres, il y a aussi l'histoire de Baptiste avec Moïse, parce que c'est son grand-père, donc pareil, il y a toujours des histoires entre les grands-pères et les petits-fils, mais il y a aussi, et ça c'est assez génial, il y a l'histoire de Moïse, qui apparaît en plus qu'en filigrane, qui conduit toute cette histoire. Mmh. Et l'histoire de Moïse, c'est un peu l'histoire de plein de Français du XXe siècle. Il est fils d'un disparu de la Grande Guerre, ensuite c'est un ouvrier de l'Est de la France, et il va finir prisonnier en Allemagne. Comment vous avez abordé cet aspect historique de l'histoire de France ? On va reparler de l'histoire de Baptiste, hein, mais comment vous avez abordé cette histoire, parce que c'est une histoire vertigineuse.
Oui. Donc le grand-père est né en 1910, donc il va voir, en effet, il va perdre son père pendant la Première Guerre mondiale, donc il va quasiment pas le connaître, évidemment, et puis lui-même va être capturé, comme on l'a dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, moi, comment je l'ai interprété, ben, en fait, non, à partir du roman, ben, j'ai suivi quand même le fil du texte. Et après, ben, moi, c'est aussi ce qui me plaît dans les adaptations et dans ce type d'adaptation, c'est de, ça me permet moi de me cultiver. C'est vachement intéressant pour ça. J'ai regardé pas mal de choses sur Internet, évidemment, et puis, ben, c'est vrai que quand on lit ça, ça nous rappelle. Enfin, il y a tout le temps, en fait, des histoires de famille comme ça, et ça nous renvoie vachement à ce qu'on a pu, ce que nos parents ont pu connaître, ou nos grands-parents. Alors moi, c'est vrai que Baptiste le dit d'ailleurs, il dit « Profitez-en pour discuter avec vos aïeuls pendant qu'ils sont encore vivants. » Moi, je ne l'ai peut-être pas assez fait avec mon grand-père. J'essaie de le faire un peu avec mon père. Et c'est vrai que dans toutes les familles, il y a des histoires comme ça qui sont toutes empreintes d'aventures, je sais pas comment expliquer. Il y a des tas de choses qui leur est arrivé dans leur vie. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de secrets dans les familles. Il y en a toujours. Et c'est vrai que ça nous renvoie toujours à des questionnements qu'on peut avoir dans notre famille. Voilà.
Oui, il y a des secrets. Et moi, ce qui m'a aussi touché, c'est que on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut dire. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas le droit soi-même de garder des secrets et puis de pas les délivrer à ses enfants? C'est quelque chose de très touchant et qui renvoie soi-même à sa propre vie. Quand on a des enfants, c'est jusqu'où on va quand on leur dit des choses.
Oui, mais ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que donc, le grand-père n'a jamais parlé de sa vie pendant qu'il était vivant. Mais cependant, il a quand même écrit toutes ses lettres dans ses carnets qu'il a laissées dans une malle. Donc, quelque part, c'était un peu destiné à être lu par quelqu'un, je pense, par quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, voilà.
Donc, il faut qu'on parle un peu de l'histoire, parce que l'histoire est à la fois absolument dramatique et en même temps extrêmement jolie, extrêmement presque romantique, extrêmement touchante.
Et très romanesque.
Et très romanesque, oui, absolument, parce qu'il y a des événements qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Bon, l'histoire fait aussi que les choses vont vite. Pour parler donc de Moïse, de ce grand-père qui est finalement assez mystérieux, est-ce que vous pouvez me dire qui il est, quelle est sa vie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ?
Moïse, il est né alors dans les Ardennes, dans une famille pauvre. Et puis, donc il perd son père pendant la guerre, Première Guerre mondiale. Il est élevé par sa mère qui est plutôt froide aussi, qui est assez incapable de lui donner de l'affection. Ils vont se retrouver à déménager, bon, pas très loin. À l'époque, ils déménageaient pas trop loin, c'était déjà beaucoup. Oui, et puis, ils travaillent très tôt, en fait. Ils travaillent à 13-14 ans, il me semble, comme coursier. Il va rencontrer dans sa jeunesse plusieurs personnes, dont une fille ou deux avec lesquelles il va avoir des petites aventures. Et puis, très vite, il va être emporté par l'appel de cette deuxième guerre mondiale qui arrive. Lui, il va avoir déjà quoi, une trentaine d'années quand il va se retrouver, en 40, quand il va se retrouver sur le front, quoi. En plus, c'est vraiment les Ardennes, c'est vraiment le front, quoi. Et très vite, il va être fait prisonnier. C'est intéressant parce que c'est pas un héros de guerre, hein, pas du tout ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un comme tout le monde. Et puis pour le coup, il est prisonnier. Et puis, j'ose pas trop en dire en fait, parce que c'est vrai qu'il lui arrive vraiment beaucoup de choses dans sa vie qui sont assez incroyables. Mais il va se retrouver à Cologne, il va se retrouver à recroiser des personnes de son passé, et ça va engendrer plusieurs choses.
il faut pas trop en dire, mais il faut quand même parler donc de cette jeune Allemande, parce que pendant que lui, dans les années début des années 30, ouais. Il est donc c'est donc un jeune homme qui vit dans les Ardennes, son couple est pas. Et pas au firmament des couples.
Oui, parce qu'il se marie.
Il se marie très jeune, mais ça aussi.
Avec une amie d'enfance.
Ça fait partie de la société française de l'époque. Mm-hmm. On s'amuse et puis on fait un enfant et il faut se marier. Donc on n'a pas forcément toutes les cartes pour choisir. Mais il va rencontrer donc une jeune Allemande. Ils vont tomber, on peut le dire, éperdument amoureux l'un de l'autre. Mm-hmm. Là arrive encore une autre histoire dans l'histoire. C'est le problème des. Enfin, oui, le problème, on peut dire ça comme ça, des couples franco-allemands qui suivent la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une chose auxquelles on ne pense pas, parce que ce n'est pas des choses très courantes. Mais ce jeune homme qui tombe amoureux d'une Allemande, c'est quasiment un amour impossible.
Oui, surtout à cette époque, hein, avec déjà le souvenir de la Première Guerre. Il y avait vraiment une haine féroce des Allemands. Et puis, en fait, finalement, allemand ou n'importe quelle autre nationalité, c'est vrai que ça n'empêche pas l'amour. Donc, lui, il se retrouve avec, très, très amoureux de cette fille et c'est réciproque. Et moi, j'aime bien, en fait, cette histoire avec les Allemands parce qu'on en garde le souvenir de la France a gagné, les Allemands, c'était vraiment des salauds et tout. Et en fait, ça, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et là, on a vraiment le point de vue des deux côtés. Enfin, on a même un point de vue neutre, finalement, puisque ni du point de vue allemand, ni du point de vue français, on a un point de vue juste d'un jeune couple qui s'aime. Et à travers ça, c'est vrai que ça nous montre aussi une autre facette de la guerre.
Mais ce Moïse, je l'ai trouvé assez, assez formidable. On s'y attache vraiment très très vite. Bon, il lui arrive quand même pas mal de malheurs, donc ça fait qu'on a de la sympathie pour lui. Mais moi, je trouve que juste cet épisode, du fait qu'il tombe amoureux d'une Allemande et il se pose la question, et puis finalement, la raison prend le dessus, quoi. Il voit en elle une jeune femme et pas une Allemande, en fait.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est vraiment un très, très beau personnage.
Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'il lui arrive beaucoup de choses à Moïse et qui sont assez difficiles. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir assez vite de l'empathie pour lui. Et aussi, comme vous disiez, la raison l'emporte aussi. Et en même temps, il se sent coincé. Il se sent obligé d'être rattaché à sa femme d'origine aussi. Et ça, c'est assez troublant à l'époque. Peut-être qu'on ne fonctionnerait pas comme ça actuellement.
Oui, et puis surtout, il a une petite fille, et puis c'est aussi des villages où tout le monde se regarde. On est vraiment dans un monde de toutes petites villes, de petites communautés.
Oui, tout à fait.
C'est pas aussi simple de prendre sa liberté. Bon, même s'il ne faut pas en dire trop, il faut quand même qu'on avance un peu dans l'histoire, parce que tout le gros de l'histoire, ça va être ça. Comme il est prisonnier en Allemagne, il se dit à un moment donné qu'il va peut-être pouvoir retrouver son amoureuse, la femme à qui il ne cesse de penser. Mais avant tout ça, il y a toute la vie des prisonniers français en Allemagne. Donc c'est important parce que ça concerne quand même plus de 1,5 million d'hommes qui sont prisonniers. Là, comment vous avez vous êtes documenté, comment vous avez travaillé, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien. Et ce que vous décrivez, vraiment très juste.
Ah, et ben tant mieux, parce que je me suis pas trop documenté, pour être franc. non, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais j'ai vraiment suivi le roman. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on suit les lettres de Moïse, hein, donc c'est vraiment, il a raconté ce qui lui était arrivé. Non, moi, c'est plus d'un point de vue visuel, en fait, que je travaille, donc comme il faut que j'illustre les propos de Baptiste. J'ai essayé de trouver des photos, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas tant que ça, de prisonniers dans des camps allemands. On en a quelques-unes qui ressortent. Et puis pas assez peu de témoignages, mais j'ai quand même, j'ai essayé de composer, donc je suis plutôt content si vous me dites que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai que personnellement c'était une histoire que je connaissais pas trop, des prisonniers français, et d'ailleurs qui entretiennent des relations des fois tout à fait amicales avec des soldats allemands ou même avec des SS, hein, il explique dans l'histoire, hein. donc ça c'est surprenant.
Oui, parce que la vie s'installe. Bon, après, ils sont pas tous aussi amicaux. Hein. Faut quand même rééquilibrer les choses. Mais effectivement, les gens qui sont autour de lui, finalement, il laisse un peu faire les choses du moment que le travail se fait, parce que lui, il est employé dans une fonderie, ce qui n'est pas une mince affaire.
On montre aussi, d'ailleurs, que quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est que dans cette fonderie allemande, il y a aussi des civils allemands qui sont prisonniers eux-mêmes. Ce que je connaissais pas, moi, pour moi, je me disais bêtement, tous les Allemands étaient enrôlés dans la guerre contre l'ennemi. Mais en fait, il y a aussi tous ceux qui sont contre le parti, évidemment, contre le parti nazi de l'époque. Donc, eux, ils ont été emprisonnés, ils se retrouvent aux travaux forcés, quoi. Enfin, emprisonnés, c'est un peu entre les deux, je crois, parce que ils sont, à la fois, ils peuvent rentrer chez eux le soir, mais ils doivent travailler pour le parti, quoi.
Oui, ils sont surveillés, en tout cas.
Surveillés, ouais.
Donc, j'ai une question, c'est que le texte des lettres, c'est vraiment les lettres qu'a écrites Moïse à l'époque ?
Et oui. Après, alors, il y a eu deux réécritures à travers ça, c'est-à-dire, enfin, comment dire, entre guillemets, puisqu'il y a une première réécriture de Baptiste, parce qu'il a essayé de rendre ça un peu plus littéraire, puisque le grand-père n'était pas écrivain, donc il a écrit vraiment comme il le sentait, c'est pas toujours hyper fluide. Donc Baptiste a réécrit les lettres en gardant évidemment tout le sens, tout le contenu. Et puis moi-même, j'ai dû couper, forcément, un peu couper, puisque c'est de la bande dessinée, on peut pas tout mettre, ça aurait fait vraiment trop long. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'a raconté Moïse.
Mm-hmm. Ah, c'est une question, parce que je trouve que ces lettres, elles sont remarquablement écrites. Voilà, je me demandais si elles avaient été retravaillées par la patte du romancier. Mm-hmm, ouais, cet homme très modeste, je me suis dit, il a un sacré style.
Je pense que c'est dû à l'écrivain.
Il faut, même si on est à la radio, il faut quand même qu'on parle de votre dessin, parce que évidemment, comme c'est une bande dessinée, ça joue énormément dans l'intérêt et le charme de votre travail. Il y a deux parties dans le dessin. Il y a une partie sur l'histoire, donc ce qui se passe dans le passé, et une partie sur la quête donc de Baptiste, sur les traces de son grand-père. Ce qu'on n'a pas dit, ce qu'il faut dire, c'est que comme son père est malade, c'est Baptiste qui va sillonner la France à la recherche des traces de son grand-père. Donc on ne va pas dévoiler, on ne va pas dire s'il les trouve ou s'il ne les trouve pas et comment il se débrouille. Mais il y a deux styles, un style contemporain et un style historique. Là aussi, comment vous avez organisé tout ça ? Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ces deux formes de narration ?
Moi, je ne voulais pas travailler comme ça au début. J'avais d'autres idées, mais finalement, au début, je voulais travailler à l'encre, un peu comme j'avais déjà fait auparavant. Et à un moment, j'avais même une boîte de crayons de couleur à côté de moi qui me faisait envie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti les crayons de couleur, voire jamais d'ailleurs. Et puis, j'ai décidé d'utiliser du crayon de couleur pour les lettres. Mais c'est vrai que j'avais l'envie déjà de toute façon de bien marquer les deux récits pour qu'on se perde pas dans les deux, pour qu'on fasse bien la part des choses. Et puis, c'est vrai que pour tout ce qui est lettres et le passé, je suis parti sur une bichromie de couleurs, un marron et un bleu. Et le marron, il apporte un peu ce côté sépia des photos anciennes qu'on peut retrouver parfois. Et puis il me fallait une couleur qui allait bien avec ce marron, donc voilà, c'était le bleu. Et puis pour ce qui est de la quête, il me fallait quelque chose de plus classique, enfin, moi j'appelle ça classique, c'est du trait au crayon aussi, mais qui est colorisé ensuite à l'ordinateur.
Ouais. Oui, parce que tous les enfin tous les dessins au crayon de couleur s'insèrent dans les lettres. Je dis ça pour les auditeurs, et on a un peu l'impression d'un journal illustré. Ça, on a à la fois la voix de Moïse, la voix du grand-père, et on a aussi la voix de toutes les autres personnes qu'il a pu rencontrer. C'est une sorte de récit choral avec les amis, la famille, les gens qu'il croise, les Allemands. Ça aussi, c'est assez. Enfin, j'ai trouvé ça assez merveilleux. Voilà, c'est le mot qui me vient quand je regarde vos pages.
J'ai l'impression que c'est un peu la démonstration du roman graphique. Enfin, des fois, on dit roman graphique pour des BD qui font juste plus de 200 ou 300 pages. En fait, c'est un peu ça. Là, c'est pas mal de texte parce que c'est vrai qu'il fallait garder l'essence des lettres et en même temps, des dessins qui viennent ponctuer, illustrer tout ça. Et plus, évidemment, les parties plus bande dessinée avec des gaufriers, des cases bien rangées pour raconter l'enquête de Baptiste.
On a presque fini. Moi, j'ai une question sur Baptiste Beaulieu. Quand il s'est vu en bande dessinée, quelle était sa réaction?
Il s'était déjà vu une première fois dans les milieux de vie des urgences.
Mais là, il se voit avec son père, avec sa mère, avec sa sœur, ouais. Avec...
Baptiste, il est très ouvert, il me laisse beaucoup de liberté, il sait aussi que je ne suis pas un très grand portraitiste, et d'ailleurs, ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas forcément le but, c'est qu'il se ressemble énormément. Il sait aussi que c'est un roman graphique, c'est une bande dessinée, enfin c'est fait pour... le but n'est pas d'être parfaitement... de coller parfaitement à la réalité, hein, évidemment. Et donc... honnêtement, moi, je prends vraiment des libertés pour représenter Baptiste. Son père, à part le fait qu'il est chauve, je savais pas trop à quoi il ressemblait, je l'ai aussi un peu inventé. Ça permet aussi de mettre un peu de distance avec les gens pour pas qu'ils se fassent trop repérer. La seule personne dont je me suis rapproché le plus, c'est le grand-père, évidemment. Là, j'avais quelques photos, mais quelques photos... vraiment une de quand il est très jeune, une quand il a une trentaine d'années, et puis aussi quand il est plus âgé. Voilà, lui c'est le seul qui se rapproche vraiment, qui se ressemble vraiment.
Vous dites que vous n'êtes pas un grand portraitiste, la sensibilité au portrait, au visage, là aussi, ça, comme c'est une biographie, une autobiographie quasiment, je trouve que ça aussi, ça joue, vous incarnez vraiment les personnages.
Non, je ne suis pas portraitiste dans le sens où je n'arrive pas à faire des visages ressemblants à partir de personnages existants. Par contre, j'adore travailler le personnage. Enfin, c'est vraiment le truc qui m'intéresse souvent le plus dans la bande dessinée. Souvent, je partage vraiment personnage et décor et je me dis, le personnage, j'adore vraiment travailler les expressions sans en faire trop parce que des fois, en bande dessinée, on peut avoir tendance à être, cartoonesque. Quoi. Enfin, et là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment une histoire réelle, donc il ne faut pas en faire trop. Il faut avoir une certaine retenue, je pense. Mais j'adore travailler ça parce que c'est assez subtil. Et d'ailleurs, une fois, une de mes bandes dessinées a été adaptée au cinéma. Et c'est super intéressant de voir ce parallèle entre ma proposition pour les personnages d'acting, quoi, enfin de jeu, et la proposition des comédiens de cinéma, qui est très différente, mais super intéressant.
Oui, parce que c'est... Bon, la bande dessinée et le cinéma, il y a évidemment des rapports, mais quand... J'avais pas pensé à ça en vous lisant, mais effectivement, on est vraiment dans un grand fil d'aventure, quasiment une grande histoire romantique avec entre les lignes, et votre découpage est effectivement très cinématographique. On change de plan, il y a un gros travail et on se plonge vraiment dans l'histoire aussi grâce au découpage.
Oui, là moi aussi c'est aussi un de mes grands plaisirs, c'est le travail des plans, hein, en bande dessinée. Bon, après c'est indispensable, hein, pour pas ennuyer le lecteur, mais oui je sais que j'ai une approche parfois un peu cinématographique, tout à fait.
Donc, comme je disais, on a presque fini notre rencontre, mais à la fin du livre, on découvre que finalement l'histoire n'est peut-être pas terminée, parce qu'il y a une sorte d'appel au lecteur pour aider Baptiste à trouver des informations sur cette Anneliese Schmidt. Donc évidemment, on ne dit pas qui elle est, mais est-ce qu'il a eu des informations, est-ce qu'il a trouvé des gens qui lui ont permis de se rapprocher d'elle?
Actuellement, il n'a pas encore eu de retour là-dessus. Bah, c'est assez difficile parce que c'est possible qu'elle ait déménagé aux États-Unis, et du coup, avec la distance, ça crée des difficultés vraiment pour retrouver quelqu'un. En oui, plus, elle serait assez âgée maintenant, elle aurait au moins 76 ou 80 ans peut-être. Ouais.
Oui, puis elle aurait changé de nom, elle aurait aussi
voilà,
ouais, ouais. Elle aurait tout ça. Et puis, voilà. Enfin, bon, ça aurait été aussi intéressant de savoir quelle était la fin de cette recherche. Mais Dominique, ouais. je vous remercie de ce moment passé avec moi, c'était vraiment intéressant. Et moi, je conseille absolument de lire Entre les lignes, publié donc par les éditions Rue de Sèvres. Donc, vous êtes Dominique Mermoux, et c'est d'après le roman de Baptiste Beaulieu, et c'est au prix de 20 euros. Et c'est un grand un moment à la fois de lecture, de littérature et de bande dessinée. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.